J'ai l'habitude, hein, c'est que quand c'est moi qui prêche que ça arrive. Quand c'est Paul, il n'y a personne. Alors quand c'est moi... C'est bien comme ça. Seigneur, merci pour la variété de ta façon de parler, Seigneur. Tu t'adresses à tes enfants, Seigneur, et tu les pousses à exprimer leur voix. Seigneur, parce que toi-même, tu les as interpellés avant. Et je prie, Seigneur, pour que cela continue et que chacun, Seigneur, puisse t'entendre dans son cœur et être, Seigneur, un digne représentant de la parole de Dieu autour de lui. Seigneur, c'est vrai que nous voulons porter ta parole dans notre cœur, non pas seulement afin de ne pas pécher contre toi, mais afin, Seigneur, que la vie de Christ puisse, Seigneur, nous toucher, nous, et toucher tous ceux que tu nous donnes et qui sont autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous allions dans le livre des Hébreux. Chapitre 2. À partir du verset 5, je vais lire jusqu'à la fin du chapitre. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est un passage difficile. Je ne vais pas tout vous expliquer. D'ailleurs, j'ai moi-même encore beaucoup d'heures à travailler dessus. Mais, de façon générale, le livre des Hébreux, qui n'est pas une lettre, la façon dont elle est écrite montre que, finalement, il n'y a pas de salutation, il n'y a pas toutes ces choses qu'on trouve dans les Épîtres. C'est une sorte de message qui a été envoyé à des Juifs qui avaient manifestement besoin d'être renforcés dans leur foi nouvelle dans la foi en Jésus. On trouve trois grandes divisions dans ce livre qui chacune souligne une facette, en fait, de la supériorité de l'œuvre de Dieu au sein de la Nouvelle Alliance. La première partie, on peut la trouver, si ça vous intéresse de le noter, de chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, et verset 13, qui montre la supériorité de Jésus-Christ sur les prophètes, la supériorité de Jésus-Christ sur les anges, et la supériorité de Jésus-Christ sur Moïse. Vous avez ensuite une seconde partie qui évoque la supériorité de l'œuvre de Christ en tant que souverain sacrificateur qui exerce un ministère dans une alliance, il est dit, plus excellente. Et ce ministère, il exerce dans un sanctuaire qui n'est pas fabriqué de main d'homme, mais qui est auprès de Dieu. Un sanctuaire céleste, dans lequel nous-mêmes, nous avons un accès, et c'est important. La troisième partie concerne l'excellence de la foi en Jésus-Christ, et en ce qui concerne notamment le pardon des péchés, le développement de la personnalité spirituelle, ainsi que le développement et de l'Église. Cette supériorité est attestée dans tout le livre. Il y a des mots perfection, il y a des mots tels que supérieur, plus excellent. Donc il y a vraiment une argumentation qui est donnée sur toute la durée du livre et sur tout ce qui concerne Christ pour sans doute des croyants juifs qui étaient peut-être ne comprenaient pas réellement ce qui se passait ou qui étaient en train peut-être de perdre la foi en Christ. En ce qui nous concerne ce matin, j'aimerais qu'on s'attarde juste sur le passage que j'ai lu. Comme je vous ai dit, je ne rentrerai pas en détail dessus, mais je ferai quelques points là-dessus. Notamment, ce qui m'intéresse, c'est donc cet aspect où Jésus-Christ est devenu homme, l'humanité de notre Seigneur. En lien avec quelque chose qui nous touche de près et qui, lui, l'a touché de près aussi, la tentation. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde. Si on retourne à l'origine des choses dans la Genèse, au chapitre 1, Dieu, verset 26, Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre » et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » C'était donc là, à des hommes, à l'homme, que Dieu avait donné la domination sur tout ce qui était sur la terre. Il avait confié le jardin d'Éden et toute sa gestion à Adam et Ève en leur demandant de veiller sur cet endroit. Dieu leur avait donné le pouvoir. Ça veut dire quoi, si on se replace dans le contexte de l'époque? Ça veut dire que Dieu a pris quelque chose qui lui appartenait, le pouvoir. Et il l'a donné à Adam et à Ève. Il a pris de lui-même, de son autorité, de sa capacité, de sa force, de sa puissance. Et il l'a donné à Adam et Ève. Dans cette optique, lorsque le péché n'a pas encore existé, on a affaire donc à un couple parfait qui réalise une gestion parfaite des choses que Dieu leur a données, n'est-ce pas? Puisque c'est avec la capacité divine qu'ils font ces choses. Manifestement, dans ce monde, dans cet Éden, la possibilité de la tentation existait. La preuve même, c'est l'apparition du serpent et toute l'œuvre du serpent, on en a déjà parlé, comment il a agi pour finalement faire pécher Adam et Ève. En cédant à la tentation, ils ont cédé tous les droits qu'ils avaient. Toute la domination qu'ils exerçaient, ils l'ont perdue. Cette capacité qu'ils avaient à dominer sur les poissons, sur les oiseaux, sur tout l'environnement, tout cela a été perdu, mais plus encore, la capacité à dominer sur soi-même, la capacité à choisir entre le bien et le mal, la capacité à ne pas aller dans ce sens-là, mais aller plutôt dans le sens divin, ils l'ont perdu également. Et ils ont perdu aussi la domination qu'ils avaient sur la mort. À l'instant même où ils ont péché, c'est tout un système démoniaque, satanique, qui est rentré dans leur cœur. Un gouvernement qui est rentré dans leur cœur. Aujourd'hui, les tentations nous surviennent comment ? De l'extérieur, par sollicitation, par stimuli externes, mais aussi de l'intérieur. Alors, on le lit dans l'épître de Jacques, pardon, au chapitre 1, verset 14, ou fin du verset 13, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, Jacques a bien expliqué quelque chose que l'on vit tous les jours, qu'on a du mal à avouer, hein, on a du mal peut-être à dire que finalement, c'est pas les choses de l'extérieur, c'est pas les trucs de dehors qui nous font pécher, c'est surtout et avant tout ce qu'il y a à l'intérieur qui nous fait pécher. La tentation et le péché sont deux choses qui ne sont pas pareilles. Je crois que pour beaucoup de croyants, la difficulté réside dans le fait qu'ils ne savent pas discerner entre les deux. Le non-croyant, on peut dire que, d'une certaine manière que le non-croyant n'est jamais tenté. Il vit la tentation comme une... comme étant son quotidien, je veux dire, il ne se pose pas la question, il vit un peu comme un animal. Il accepte les stimuli, il accepte tout ce qui est visuel, il accepte ce qui vient de l'intérieur, et il ne se pose pas la question si il faut résister ou pas dans la plupart des cas. Il y a peut-être que dans des grands enjeux, lorsque on parle de meurtre, on parle de choses de cet ordre-là, que peut-être il commence à se poser des questions. Mais de façon générale, la vie quotidienne se déroule, les tentations arrivent, les réactions sont conditionnelles, on va dire, à l'organisation de la journée, sont conditionnelles à la façon dont on s'entend avec son conjoint, sont conditionnelles à la façon dont les enfants se tiennent. Les questions ne sont pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est est-ce que ça me convient maintenant ou pas. Pour un croyant, les choses sont différentes. Un croyant ne veut pas pécher. N'est-ce pas? Oui? Ça semble évident? Un croyant ne veut pas pécher. C'est pour cela qu'il ressent la tentation avec force. Parce qu'il s'oppose. Il y a quelque chose en lui qui s'oppose à la tentation. Alors, est-ce que Christ a été tenté? Bien sûr, bien sûr. Verset 17. Alors, quand on parle de tentation, on peut parler d'épreuve ou de souffrance même, d'une certaine manière, souffrance, épreuve, tentation, vous pouvez assez facilement mélanger cela sans vous tromper beaucoup dans le sens. La tentation, lorsqu'on y résiste, est une souffrance. Elle se vit comme une souffrance, elle se vit comme une épreuve. Et donc Jésus a été éprouvé. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Verset 18, « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Et vous avez la même chose au chapitre 4, verset 15, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Qu'est-ce qui change finalement entre nos tentations et celles de Jésus ? Il a vécu les mêmes émotions, il a vécu les mêmes stimuli visuels, il a vécu toutes ces choses-là. Mais comme je l'ai dit déjà, dans la mesure où il n'a pas cédé, lui, à la tentation, il n'a pas péché, et donc à l'intérieur de son cœur ne pouvait survenir aucune tentation. Il ne pouvait pas, Jacques ne peut pas s'appliquer à Jésus de ce fait-là. Jésus était libre à l'intérieur de lui-même. Vous savez que Éphésiens, Philippiens, à différents endroits, on nous dit que nous sommes en Christ, et on en a déjà parlé ici. Nous sommes et nous vivons croyants en Christ. Lorsque Christ est mort, on pourrait dire que Christ est mort pour nous donner la vie. Mais c'est aller un peu trop vite. Christ est mort pour nous donner la mort. Et ensuite, Christ est ressuscité pour que nous ayons la vie. N'est-ce pas? Et lorsque nous sommes morts, ce qui s'est passé, c'est que cette intégrité qui existait en Christ nous a été imputé, nous a été donné lorsque nous sommes ressuscités avec lui. Le non-croyant ne peut pas comprendre cela. Il faut l'Esprit de Dieu pour commencer à réaliser peu à peu ces choses-là. Ce matin, si vous êtes là en visiteur ou si vous n'avez pas donné réellement votre vie à Jésus, ces paroles n'ont pas beaucoup de sens pour vous. Votre vie est gouvernée par vos tentations et par le péché qui en découle. Il est nécessaire de passer par ce stade où notre vie est donnée entièrement à Christ, en réponse à son appel, en réponse à une sollicitation de sa part, afin que dans nos cœurs, il puisse faire régner l'ordre et l'intégrité qui appartiennent à Dieu lui-même. Jésus-Christ, par son obéissance et parce qu'il est allé à la croix, nous a donné la possibilité de dominer à nouveau. Nous a donné la possibilité, non pas tous les jours de courir après des possibilités de bien vivre. Non, il nous a donné beaucoup plus que cela. Il nous a donné la possibilité de dominer à nouveau. Et beaucoup plus, en fait, encore. En réalité, lorsqu'on lit le péché originel et la tentation, on pourrait se dire que Satan a mis en œuvre une arme terrible. En réalité, cette arme se retourne contre lui-même. N'est-ce pas? Parce que à chaque fois qu'un croyant est tenté, sa volonté c'est de se rapprocher de Dieu. Est-ce que j'ai tort? À chaque fois qu'un croyant se sent en difficulté de ce point de vue-là, sa volonté, c'est de se rapprocher de Dieu. Et donc, le système de la tentation, depuis le début, est finalement une œuvre de Dieu pour nous rapprocher de lui. On le voit dans le verset, dans la section de 10 à 13. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui toute chose et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous n'appartenons plus au royaume des ténèbres. Nous sommes de Dieu. Car celui qui sanctifie... Pardon. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. C'est pas qu'il nous appelle fils, ou pas seulement. Ce n'est pas seulement qu'il nous appelle enfants. C'est aussi, et c'est une nouveauté, il nous appelle frères. Avant la croix, il ne pouvait pas nous appeler frères. Il ne pouvait pas nous appeler autre chose que enfants, peuple. Mais avec la croix, il nous appelle frères. Christ n'a pas honte de s'identifier avec moi. Il n'a pas honte de s'identifier avec vous. Ce matin, il n'est pas seulement assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Ce matin, il est assis sur une de ses chaises. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. En fait, il est assis dans nos cœurs, et de ce fait, il est au milieu de l'assemblée et il célèbre Dieu avec nous. Je me confierai en toi et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et lorsque nous allons devant son trône, lorsque nous en appelons à lui, il est présent également. Il est entièrement, et c'est seulement son humanité qui a pu faire cela, il est entièrement investi auprès de nous, devant le Père. Alors, le problème, c'est souvent c'est un problème de perception de ces réalités, de ces vérités. Satan a un objectif, c'est celui de nous accuser, de nous dénigrer vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis des autres aussi. De nous faire croire que nos tentations sont des péchés. Je ne sais pas. Enfin, il y a beaucoup de situations où on sent le poids et la pression de la tentation. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on se sent souillé, on se sent mal à l'aise, on se sent mal dans sa peau. Et pourtant, si on a la tête sur les épaules, on s'aperçoit qu'on n'a pas péché. On a été frôlé par les injonctions du malin, on a été amené au bord peut-être du péché. Mais on n'a pas péché. Et tout se joue dans cet entre-deux où les choses ne sont pas très claires. Et si on n'a pas une claire compréhension de ce que c'est que la tentation, on court le risque de basculer et de dire « j'ai péché ». Alors, vous me connaissez, je ne suis pas en train de vous dire que on se compromet ou ce genre de choses-là. On ne se compromet pas avec le péché. Mais il ne faut pas non plus qu'on soit prisonnier de ce que Satan aimerait. C'est-à-dire qu'il aimerait peut-être qu'on oublie ce que ça signifie que d'être un enfant de Dieu. Et je pense que c'est une grande partie de son œuvre, c'est que les croyants, les enfants de Dieu, oublient leur statut d'enfant de Dieu. Et lorsqu'on a oublié qu'on était un enfant de Dieu, on a oublié quoi? On a oublié que notre vie et que notre réalité quotidienne, c'est la vie de Christ en nous. C'est la puissance de Christ en nous. C'est la capacité de Christ en nous. Si nous oublions cela, quelle va être notre attitude devant la tentation? Nous allons y aller avec des armes tout à fait charnelles, avec une volonté. Alors ici, il y a des gens qui ont beaucoup de volonté et ils vont dire non au péché. Et le lendemain, le péché va revenir et ils vont dire non encore. Et ils vont dire non. Et vous savez, le pire, c'est qu'on peut même arriver comme ça à mater une sorte de bouillon qui s'exerce à l'intérieur, une sorte de pression qui s'exerce à l'intérieur, et on la mate jour après jour, parce qu'on est fort. Le problème, frères et sœurs, c'est que Dieu ne veut pas voir en nous un homme très puissant, très autodiscipliné, très bien éduqué, très capable de dire non au péché. Il veut voir la vie de son Fils agir par la foi. Si Dieu, lorsqu'il vous regarde, voit que vous êtes un homme puissant et capable, croyez-le, il va vous briser. Et la tentation que vous avez su, à laquelle vous avez su résister jusqu'à aujourd'hui, il fera en sorte qu'elle vole en éclats votre résistance. Il va vous briser jusqu'à ce que vous laissiez la vie de Christ apparaître en vous. C'est ça que Dieu veut voir, pas autre chose. Les souffrances, c'est Christ qui les a vécues. Et il souhaite non pas que vous passiez votre temps à dire non et entre deux à chuter, il souhaite que vous viviez la réalité de la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie de Christ sortir de votre cœur, être comme une offrande devant Dieu. Il souhaite que lorsque vous avez à faire face à la tentation, vous puissiez, au lieu de dire, ou en même temps que vous dites non, dire Christ est ma vie. La mort est un gain. Je suis mort avec Christ. Et je suis ressuscité avec Christ, ayant reçu sa capacité en moi. Je pense qu'il m'a fallu 15 ans pour comprendre ça. C'est facile à comprendre et en même temps c'est impossible à comprendre. Est-ce que vous me comprenez? Si la parole de Dieu, et notamment Paul, nous évoque des fois des mystères, ça fait partie des mystères de l'œuvre de Dieu dans notre cœur et dans l'Église. Mais c'est la foi qui est la clé de cela. C'est que on affronte les tentations, non pas par notre volonté, mais par la foi. La foi que l'œuvre accomplie par Dieu est bien réelle dans ma vie. Et Satan s'échine à nous faire croire que nous ne sommes pas ce que nous sommes. Mais si nous n'avons pas rencontré Jésus, nous ne sommes pas ce que nous croyons être. N'est-ce pas? Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ce que Dieu a choisi, ce que Dieu connaît, il viendra à leur secours. Ce n'est même pas une option, ce n'est pas dépendant même, je dirais, à nos prières. Ça dépend de Dieu lui-même. Il nous a choisis. Il m'a choisi. En période de difficulté, il viendra à mon secours. Il y a ici des gens qui peuvent témoigner que, alors qu'ils faisaient n'importe quoi, Dieu est venu à leur secours. Il y a des gens qui peuvent témoigner qu'alors qu'ils voulaient se suicider, Dieu est venu à leur secours. Et il y en a plusieurs dans cette pièce. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais prier et je souhaite que si vous ne connaissez pas cette capacité à vivre la vie de Christ, si pour vous la tentation est chaque fois l'épreuve suprême du jour, que vous luttez contre ces choses-là avec toute votre force, toute votre énergie et que vous ne vous en sortez pas. Et croyez-moi, vous ne vous en sortirez jamais, si ce n'est par la foi. Et si vous ne savez pas comment vivre cette vie de foi, si vous ne savez pas comment réagir face à la tentation, alors priez avec moi ou derrière moi, ou comme vous voulez, mais dans votre cœur, confiez-vous à Jésus. Dites-lui, je ne sais pas comment agir dans cette situation-là, mais ô Dieu, je crois à l'œuvre que tu as accomplie dans ma vie. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Seigneur notre Dieu, ton œuvre est si magnifique et si majestueuse qu'on peut difficilement l'évoquer avec les pauvres mots que nous avons dans notre bouche. Mais Seigneur, j'aimerais nous présenter tous à toi. Et alors que tu es présent au milieu de nous, Seigneur, te demander que à chacun, Seigneur, tu donnes la capacité, mais surtout, Seigneur, l'intelligence spirituelle pour vivre par la foi. Seigneur, que tu nous apprennes à te laisser toute la place et que face aux tentations, face aux envies si pressantes parfois qui exercent leur autorité sur nous, Seigneur, tu puisses nous montrer à chacun comment laisser la vie de Christ agir et lutter contre le tentateur. Seigneur, nous, il a été dit ce matin, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et nous n'avons pas non plus à lutter contre notre chair. Seigneur, c'est l'œuvre de Christ, c'est ton œuvre. Seigneur, c'est ta mort qui, Seigneur, nous donne la victoire sur la mort. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous pouvons ressusciter avec toi. Et Seigneur, nous voulons fermement croire que nous sommes ce que tu as dit que nous sommes, c'est-à-dire vivants avec toi, assis avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, en position de régner, en position de dominer. Et Seigneur, que là où jusqu'à présent nous avons toujours chuté, là où, Seigneur, nous avons opposé une résistance tout à fait humaine à la tentation, tu puisses, Seigneur, nous enseigner comment laisser ta vie couler en nous, comment recevoir, Seigneur, par la foi, la délivrance de cette puissance qui nous assaille. Seigneur, je prie pour moi et je prie pour chacun de mes frères et sœurs ici, je prie pour chacun des amis qui sont là, afin que par ton esprit, Seigneur, tu agisses et que tu donnes une grande conviction que tu es le Dieu au-dessus des dieux. Que, Seigneur, ton humanité fait qu'aujourd'hui tu compatis en souverain sacrificateur efficace auprès de Dieu dans les lieux célestes. Seigneur, que nous avons auprès de toi plus qu'une oreille attentive. Nous avons un Dieu qui s'identifie complètement à ses frères. Et Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas seuls. Je ne suis pas seul. Et tu as dit que tu seras avec moi et avec nous jusqu'à la fin. Et Seigneur, nous voulons retenir toutes tes paroles dans nos cœurs. Nous voulons les serrer contre notre cœur. Seigneur, et que tu puisses faire que la foi qui nous manque puisse être fortifiée. Que nous puissions grandir dans la foi. Seigneur, et vivre des vies spirituelles sur cette terre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.